Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement en duplex de mon salon. Et pour tous ceux d'entre vous qui auraient un petit coup de mou en cette troisième semaine de confinerie, je vous invite à relativiser et de penser à celle qui, pour le coup, n'a vraiment pas de bol, ma complice, Eva Roque, qui attendait l'amour depuis maintenant 8 ans et pour qui on peut légitimement parler de malédiction. Rencontrer l'amour de sa vie par téléphone en confinement. Sachant qu'en plus l'amour de sa vie est déjà marié avec une femme, un violoncelle et deux gosses. Oui, vendredi nous étions au téléphone avec Gauthier Capuçon. Enfin, Eva était au téléphone avec Gauthier Capuçon et moi je faisais tapisserie.
Ah, on a perdu Gauthier ? Ah merde, on a perdu Gauthier ?
Bah non, non.
Vous êtes là ?
Je suis là.
Ah, on a cru que vous nous aviez abandonné comme ça.
Moi j'ai cru que vous m'aviez rejeté.
Oh non.
Mais ça va. Non mais Mathieu Noël quoi.
Eva,
allô,
une fois de plus, vous allez noyer votre chagrin dans une orgie de séries et de films, j'imagine.
Ouais. Je sais même pas quoi dire après cette blagounette que vous venez de me faire, là, j'ai honte.
Avouez beaucoup de cœur, avouez beaucoup de cœur, qui vous a pas laissé insensible.
Mais arrêtez.
Mais
tiens,
bien
pour la peine, je ferai une série spéciale sexe cette semaine. Voilà, ça vous apprendra.
J'assume mes centres d'intérêt, vous savez.
Allez, va.
En attendant vos conseils télé, donc spécial sexe. Je vous présente nos deux derniers concurrents du jour. La première est habituée à être avec nous par ligne puisqu'elle est la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour à tous.
Vendredi, nous parlions d'une figure intitulée la rotation russe qui n'avait en fait rien à voir avec ce qu'Eva imaginait.
Parce que la rotation russe, je rêve de l'appliquer. Pardon.
Justement, non. Il s'agissait en fait d'un simple exercice d'assouplissement, donc déception. Vous, aujourd'hui, Hélène, vous nous parlez d'une rotation thaïlandaise.
Je rêve de l'appliquer.
Arrêtez.
Non, toujours pas, Eva, toujours pas. La rotation thaïlandaise, c'est le fait de fuir la Thaïlande pour se réfugier dans un pays mieux doté médicalement en temps de pandémie. C'est ça, Hélène ?
Oui, la Thaïlande vient de décréter l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Eh bien, le roi, Ramadis, lui, il a décidé de prendre ses vacances en Bavière.
Ah bah carrément.
Et ça, pas bête. Hein.
Ça crée une polémique où tout le monde est d'accord ?
Oui, alors ça fait polémique là-bas et ça fait aussi un petit peu polémique ici.
Ah oui, vous allez nous raconter. Ah bah. De l'autre côté de notre ring journalistique virtuel aujourd'hui, chef emblématique du service société d'Europe 1, sa compétence n'a d'égal que sa coquetterie. Coquetterie qui s'était un jour retournée contre elle alors qu'on recevait Elise Moon et qu'il avait eu le malheur de lui dire
« Bonjour, bonjour madame. »
Elle dit « Bonjour madame. » Elle dit « Bonjour madame. »
Bonjour bonjour monsieur, pardon.
Bonjour Eve Roger.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous vous attaquez à la problématique numéro 1 des parents d'ados confinés. Comment les occuper intelligemment, c'est-à-dire en ne suivant pas la méthode Roque qui consiste peu ou prou à les foutre devant un écran, quoi.
En fait, ils s'occupent tout seuls. Hein. Enfin, le sujet va peut-être vous paraître un peu superficiel, mais vous allez l'entendre, les ados en confinement sont inventifs, imaginatifs et rieurs.
Ah d'accord, donc en fait, la solution vient d'eux, en fait. On n'a pas besoin de les gérer.
Vous allez voir.
Alors, le confinement en mode royal avec le souverain thaïlandais dans un palace en Bavière ou bien les astuces pour arracher vos ados à la PS4, quel sujet vous aura le plus intéressé ? Nous le saurons juste avant 18h. Pour le moment, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe au bout de 13 jours ? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Roque, eva.roque@europe1.fr.
Bonjour, c'est la dame à la brosse à joie. Je vous remercie pour votre cours de yoga hier. Du coup, je suis allée voir sur Wikipédia, ils ont dit en plus de inspiré par le nez, il faut dire qu'est-ce que j'ai fait en fait. Je l'ai ouvert la bouteille.
Oui, bonjour l'équipe sauvage. Voilà, je vous appelle parce que je suis Emmanuel. Je vis à Paris. Mon confinement se passe plutôt bien. J'écris des textes. Mon épouse, qui est ancienne professeure, corrige les fautes. Et ça me permet chaque semaine d'enregistrer des petites vidéos dont la presse se fait écho d'ailleurs. Voilà. Allez, à bientôt.
Hey Google, on pourra sortir quand ?
Sois gentil, recule de 1 mètre quand tu t'adresses à moi, sinon je balance ton historique YouPorn à tous tes contacts.
Et il paraît qu'on a les auditeurs qu'on mérite, alors autant vous dire qu'ils sont aussi fous que nous. Hein. Et puis on a eu un petit message de David. Alors David, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, il fait souvent des montages de nous, des montages photos. Voilà.
David, je lui lance un appel parce que moi je suis une quiche pour les montages photos, j'ai essayé d'en faire pour Instagram.
Il va peut-être vous aider.
C'est ridicule.
Il va peut-être vous aider. Il a un petit message pour vous en tout cas.
Ah oui.
Mon Bonjour à tous, c'est David, graphiste dans la banlieue bordelaise. Ce soir, j'ai aussi la chance d'avoir mon voisin qui a décidé de nous faire profiter du best-of des Gypsy Kings. Alors moi, j'aime bien les Gypsy Kings. Pas de problème, mais quand je l'ai choisi, là, je subis les Gypsy Kings. Voilà, c'est un petit peu ça, la vie dans un pavillon de banlieue à Bordeaux. En tout cas, je voulais remercier toute l'équipe de l'équipe sauvage de continuer, bon gré mal gré, à nous faire rire et à nous informer. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.
À nous aussi, David, on l'embrasse. Hein, voilà.
On vous embrasse très fort.
On veut des tutos.
Continuez, ouais, on veut des tutos, mais continuez de nous faire des petits montages et voilà. Je me ferai un plaisir de les relayer sur Instagram. Confiné, mais toujours déjanté, vous l'avez entendu, l'équipe est sauvage, continue.
Europe 1.
Quand il a compris que le coronavirus allait arriver aussi dans son pays, le roi de Thaïlande a immédiatement déclaré l'état d'urgence en s'exclamant. Traduction. Direction un hôtel de luxe en Bavière, une certaine idée du confinement. Hélène Cole nous raconte juste après Julianne Peretta, Wonder Why sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Try infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhyme, maybe recreate the times you were shy but happy and we were fine and dandy. Here we are again, but backseat love don't move me. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go.
C'était Julianne Peretta sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, ou plutôt alors que nous nous apprêtons à retrouver Hélène Kohl en direct de Berlin, Das Wild Team. Nos voisins allemands qui démontrent, non, j'en sais rien, j'ai tapé sur Google Traduction. Nos voisins allemands qui démontrent avec leur faible taux de mortalité que le meilleur des remèdes contre le coronavirus n'est peut-être pas la chloroquine, mais la bière. Oh. Bonjour Hélène.
Oh, le cliché.
Le houblon est peut-être la clé contre le virus. C'est d'ailleurs certainement une des raisons qui ont poussé le roi de Thaïlande, Rabat X, à s'installer en Bavière pile au moment où son pays passait en état d'urgence sanitaire.
Oui, alors c'est quand même une certaine idée du confinement pour le souverain thaïlandais et sa suite, puisque le 18 mars dernier, Ramadis a déboulé au grand hôtel Sonnenbirl de Garmisch-Partenkirchen avec une bonne centaine de personnes dans ses bagages. Et pourtant, l'hôtel était fermé à cause du confinement, mais les autorités allemandes ont estimé qu'on pouvait faire une exception pour Sa Majesté. Vous savez que le roi de Thaïlande a le statut de dieu sur terre. Et si, et en 67 ans, Ramadis n'a jamais été contredit de toute sa vie. Donc, les Bavarois ont quand même refusé l'accès aux membres de la suite royale qui avaient l'air un peu malades. Et ça concernait 119 personnes quand même. Donc, ceux-là, on les a renvoyés en Thaïlande. Mais ne vous en faites pas pour Maha Vajiralongkorn, hein, c'est le vrai nom de Ramadis. Il a encore avec lui, à ses côtés, un harem de 20 favorites et plusieurs dizaines de domestiques et gardes du corps. Tout ce petit monde n'a pas le droit de sortir de l'hôtel et se débrouille en autonomie complète dans le palace 4 étoiles de la station de ski bavaroise.
Mais pourquoi la Bavière, Hélène ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le souverain thaïlandais adore la Bavière. Ça fait 20 ans qu'il y vient régulièrement. Il y possède plusieurs villas. Il y passe plusieurs mois chaque année. Alors, les Allemands ont découvert cette information en 2016, quand le roi a été pris en photo sur le tarmac de l'aéroport de Munich. Alors, il était en claquette et seulement vêtu d'un baggy assez bas sur les fesses et d'un bustier laissant dépasser tous ses tatouages. Et alors, face à lui, il y avait l'équipage de
c'est
la Royal Thai
dieu,
Force.
On peut tout se permettre.
Ah bah oui.
Voilà. Et face à lui, l'équipage de la Royal Thai Force était tout en galons, en boutons dorés, au garde-à-vous. Et c'est pour ça que Ramadis, en fait, adore la Bavière. Il peut s'y lâcher complètement, en fait. Il s'affranchit du protocole. La Bavière et ses montagnes, c'est son petit jardin secret, si vous voulez. Alors, il y cultive des fraises et il fait du sport en slip,
mais non,
voire en string. C'est sa grande passion.
Mais qu'est-ce que vous dites, Hélène?
Voilà, non, c'est un roi totalement extravagant. Alors, l'été dernier, on l'a encore vu faire le tour du lac de Starnberg en bikini sur son VTT.
Non.
Alors, avec lui, exactement, mais véridique, vous pouvez taper sur Google,
on
voit les photos.
Vous pouvez taper
aussi, ouais. Voilà. Alors, avec lui, il y a toujours son épouse du moment, généralement dans la même tenue, ils sont assez raccords, et il y a une trentaine de personnes, sécurité et serviteurs. Alors eux, leur job, c'est la discrétion, donc rien à dire sur leur accoutrement. En revanche, ils servent leur excentrique monarque à genoux, et comme il est interdit de lui tourner le dos, ils se retirent toujours courbés et à reculons.
Mais c'est pas possible, ça existe encore, ces trucs pareils.
Exactement,
quoi.
Et ça a choqué, ça
vous
a beaucoup choqué les Allemands.
Moi,
quand on a vu les photos, parce que ça n'est pas très réglementaire comme condition de travail, mais c'est comme ça avec Ramadis.
Donc là, il est enfermé en fait dans son palace de luxe et personne ne sait ce qui s'y passe.
Bah, s'il est avec son harem, moi je peux vous dire ce qui s'y passe. Hein. C'est pas très compliqué comme histoire quand même.
Voilà. Ça, si le mec porte des bikinis en même temps, tu sais pas trop quels sont ses penchants. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
Mais contrairement à d'autres têtes couronnées sur cette planète, Ramadis en fait ne risque rien. Il va pas y avoir la presse à scandale derrière. Parce qu'en Thaïlande, dire ou écrire du mal du roi est puni très sévèrement, jusqu'à 15 ans de prison, officiellement. Ah oui. Mais il y a même eu un blogueur qui a été condamné à 30 années de prison. Et le magazine Marie Claire, qui avait fait un article sur lui dans son édition française, et des désormais même interdit de vente dans le royaume. Mais il se pourrait que les choses évoluent un petit peu, car malgré l'instauration de l'état d'urgence qui donne énormément de pouvoir au gouvernement militaire en ce moment, dans le cadre de la maladie, eh bien, il y a un hashtag qui circule depuis quelques jours en Thaïlande. Pourquoi avons-nous besoin d'un roi ? Les Thaïlandais s'estiment abandonnés et ils se rebellent. Ils ne l'avaient pas fait quand Ramadis avait honoré son caniche du grade de général d'aviation. Mais là, il se passe quelque chose. Ce coronavirus, décidément, brouille la donne.
Ah mais il est quand même... J'avais jamais entendu parler de ce roi, moi, mais c'est incroyable cette histoire.
Vous en a jamais parlé, c'est quand même un manque.
Dirais que c'est une faute professionnelle de la part d'Emmanuel Dutheil, notre spécialiste tête couronnée. Merci beaucoup Hélène Kohl, votre chronique vous permettra-t-elle de l'emporter cet après-midi? Ève, comment vous avez trouvé ce Ramadis?
Extrêmement bisexuel.
Ah bah
oui, c'est mon expression aussi. Ouais. Merci de votre franchise.
Europe 1.
Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, les amis? La question était jadis légère, presque accessoire, puisqu'on pouvait tout aussi bien finalement décider d'aller prendre un verre ou d'aller au cinéma. Désormais, la question devient primordiale. Pour y répondre, l'expertise d'une professionnelle des médias est nécessaire. Une professionnelle qui, en outre, a l'art de nous mettre l'eau à la bouche avec des teasers percutants.
Une série documentaire très étonnante. Et vous allez voir, je pense que ça va vous étonner.
Ça, c'est bien vendu.
Et ben,
tout de suite pour les conseils télé.
Je suis cohérente. Ah, que voulez-vous?
Vous êtes cohérente jusqu'au bout. À tout de suite pour les conseils télé, écran des Baroques, alias The Entertainer.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h.
L'équipé sauvage revient dans moins de 30 secondes sur Europe 1 et dépêchons-nous parce que durant la coupure pub, Eva relit son papier et comme elle se trouve assez géniale, elle se fait rire elle-même.
Quelle est bête!
Hâte de rire avec vous, hein.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest.
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière
il
de
marcha
voir
dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, 2 heures d'infos utiles, badigeonnées d'une double couche de bonne humeur, en compagnie d'Eva Rock et moi-même, alias les Shirley et Dino du confinement. J'ai tenté la corde à sauter avant-hier dans ma cour et je peux vous dire que ça s'est mal terminé pour mon front puisque je me suis pris cette putain de corde dans la gueule plusieurs fois. Je n'arrive pas à faire de la corde à sauter, ça nécessite une coordination quand même.
Ah bah c'est ça, vous avez pris la petite truc pour qu'on tienne la corde dans la tête, quoi. C'est ça en fait, non?
Ok. Après cet épisode honteux de la corde à sauter, je me suis donc replié sur une activité sportive moins risquée, bouffer des apéritifs frais devant ma téloche. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur nos multiples écrans?
Alors d'abord, je dois vous dire, Mathieu, que j'ai pensé à vous hier soir quand j'ai vu que France 2 rediffusait Papy fait de la résistance, on en parlait tout à l'heure avec Michel Drucker. Vous l'avez sans doute remarqué, les chaînes, elles bousculent leur programmation, alors à la fois pour des raisons économiques, mais aussi quand même pour divertir au mieux les téléspectateurs, d'où le retour intense des comédies françaises notamment, on va pas s'en plaindre, c'est plutôt sympa. Et Arte, justement, propose de se marrer aussi un peu ce soir, à 20h55, mais avec un film des frères Cohen. Alors ça date un petit peu, 1987, mais c'est toujours aussi jubilatoire, Arizona Junior. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, Mathieu.
Un des films cultes de mon adolescence.
Ah, mais j'adore ce film. Alors, Aïe est un petit malfrat, il n'est pas franchement futé. Lors d'un énième séjour en prison, il va tomber amoureux d'Ed, c'est une policière, coup de foudre réciproque, il se marie, tout va bien, c'est la belle vie, répète Aïe. Et puis, Ed, elle a envie de fabriquer un mouflé, c'est elle qui le dit comme ça, sauf qu'elle est stérile, c'est le drame. Quelle solution? Eh bien, voler un des 5 enfants qu'un couple vient d'avoir, un petit bébé trop mignon.
Dis-moi qu'on a bien fait, Aïe. Après tout, ils en ont trop pour eux deux tout seuls.
T'en fais pas, chérie, ce problème, on l'a ressassé 100 fois. Va savoir ce qui est bien, va savoir ce qui est mal. Et en plus, ça fait pas 5.
Mais tu crois pas que sa maman va être malheureuse? Je veux dire, trop malheureuse.
Elle sera un peu malheureuse, oui, mais elle va s'en remettre. Elle a 4 autres jolis bébés qui sont presque aussi chouettes que l'autre. J'avais l'impression de piquer dans une grande surface.
Alors la suite, c'est une série de rebondissements aussi loufoques les uns que les autres. Tout est dingue dans ce film. Il y a une scène qui me fait hurler de rire. Aïe s'arrête dans une station-service pour acheter des couches culottes. Mais ses vieux démons le rattrapent et on le retrouve en train de braquer le commerce. Alors il a un bas sur son visage pour pas qu'on le reconnaisse et son paquet de couches sous les bras. C'est complètement lunaire comme scène. C'est vraiment une comédie déjantée qui fonctionne en partie quand même, il faut le dire, grâce aux 2 comédiens principaux, exceptionnels Nicolas Cage, look années 70, très mince, cheveux longs et moustaches, et puis Holly Hunter, en flic et mère de famille éplorée, c'est à voir ce soir sur Arte.
Alors ça c'est très joli, mais est-ce que vous n'auriez pas une petite nouveauté dans votre escarcelle?
Mais oui, à votre service monsieur, direction Netflix, pour découvrir Self-Made. C'est une mini-série en 4 épisodes qui est tirée d'une histoire vraie, celle de Madame C.G. Walker. Alors c'est peu connu du grand public et pourtant c'est une grande figure de la défense des femmes noires aux États-Unis. Elle est née Sarah Breedlove, elle se retrouve veuve à 20 ans, elle est seule pour élever sa fille, on est dans la ville de Saint-Louis et nous sommes en 1905. Elle est blanchisseuse Sarah Breedlove, et notamment pour Addie, c'est une noire à la peau claire qui vient d'inventer une recette de pommade pour cheveux crépus. Et Sarah, devenue Madame C.G. Walker, décide de bricoler dans sa cuisine un produit concurrent à celui d'Addie et elle se met à rêver avec son nouveau mari.
Mon produit est aussi efficace que celui de Addie, peut-être même plus.
Et il sent bien moins mauvais.
J'ai pas envie de finir ma vie comme blanchisseuse, CJ. Miss Jessie dit qu'il y a 3 millions de femmes noires en Amérique. Si seulement elles m'achetaient un pot chacune, je serais une femme millionnaire.
C'est vrai, oui. J'ai rien à redire.
On va quitter Saint-Louis. Il faut qu'on s'en aille. Je dois sortir de l'ombre d'Hattie pour réussir.
Alors son mari y rigole, mais en fait elle va réussir, Madame C.J. Walker. Elle est née pour se battre, dit-elle, et elle va le prouver. À Indianapolis, toutes les femmes noires viennent dans ses salons et achètent ses produits. Et d'ailleurs, plus que de cosmétiques, il s'agit surtout de redonner confiance à ces femmes, de leur apprendre aussi à s'imposer dans cette société. Sarah, elle va construire un empire avant de décrocher le titre de première femme millionnaire self-made de l'histoire dans le Guinness. C'est vraiment une histoire vraie. Série que je vous recommande chaudement. Histoire forte, reconstitution plutôt très réussie et surtout une formidable Octavia Spencer dans le rôle de Madame C.J. Walker. C'est une actrice oscarisée en 2011 pour sa prestation dans La couleur des sentiments. Et c'est à voir sur Netflix. Ça vous fait deux soirées de gagner puisque c'est une mini-série hein, en quatre épisodes.
Et le bonus du jour ressemble à quoi, Eva ?
Alors, il ressemble à un nouveau jeu, question pour un balcon ou comment faire jouer les voisins depuis leur fenêtre, à un hommage signé Vanessa Paradis et à un aveu d'Ariane Ascaride devenue mon héroïne depuis hier.
Le département numéro 71.
Savoie,
c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu.
Vous qui soignez tant de détresse, moi l'abri, je pense à vous.
Une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir, quand on pourra recommencer à vivre normalement, vous y pensez ?
Je vais me saouler la gueule. Voilà. Ça, je vous le dis sincèrement, je vais me saouler la gueule.
Ah, avec modération, mais vous allez. C'est...
Aucune modération, aucune modération.
Dans vos jours noirs où rien ne cesse, il y a nos vies, c'est grâce à vous.
La jolie voix de Vanessa Paradis et un jeu formidable entre voisins. Dans le même quartier où on joue à Question pour un balcon, j'ai trouvé l'idée géniale. Et ça marche,
c'est tous
les
soirs. Et Murge
avec Ariane Ascaride,
mais
exactement.
Cela dit, j'adore Ariane Ascaride, mais enfin, elle fait la seule chose à la fin du confinement qu'on peut faire déjà pendant le confinement. Je veux dire, on peut,
oui, mais c'est pas, franchement, c'est pas vraiment, à deux ou seul, c'est quand même moins sympa. Je regrette la phrase que je suis en train de dire.
Oui,
qu'avec tous les copains, voilà, c'est peut-être pour
c'est
ça.
C'est vrai, mais toujours avec modération, Eva. Rappelons-le,
oui,
surtout dans votre bouche, ça a un écho particulier. Merci Eva pour ces multiples conseils.
Europe 1.
Même confiné, la compétition continue. Qui sera élue chroniqueur du jour ? Peut-être celle qui s'avance fébrilement vers le micro. Je dis fébrilement parce qu'elle sait que suite à sa remarque désobligeante la dernière fois pendant les réglages des micros, elle peut d'ores et déjà s'asseoir sur mon vote.
Salut beau mec.
Mais c'est qui le beau mec ?
Bah c'est Mathieu Noël, excusez-moi.
Le beau mec, tu veux que ça soit qui ? Alain Siroux ? Bon, surtout après 14 jours de confinement, je peux vous assurer que sur l'échelle du glamour, je suis assez haut. Là, en termes de beau gossitude, il faut imaginer un peu Leonardo DiCaprio dans The Revenant, mais après son combat avec l'ours, quoi. Et l'odeur aussi, pareil. Bref, nonobstant son manque de tact à mon égard, Eve Roger pourra quand même tenter sa chance avec un sujet d'utilité publique. Comment occuper intelligemment vos ados durant le confinement ? On s'en parle juste après Bernard Lavillier, la salsa sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Tout le gang était là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem. Les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà. C'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam, un coup de fouet. Une frangine portoricaine et dans le Spanish Harlem, les rats cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo de tequero mucho et de cafard. Une sauce mela, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa,
c'est un latin, des Manhattan, de la résine, des mandadam, un coup de fouet, des hauts en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les racombrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa.
La salsa, c'était Bernard Lavilliers sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Huilez vos neurones tout en dégrippant vos zygomatiques, telle est la mission de l'équipe est sauvage. La grande battle des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G qui, même confinée, continue. Et l'heure est venue d'entendre notre ultime concurrente du jour, une journaliste admirable, doublée d'une citoyenne exemplaire qui, conformément aux décrets gouvernementaux, ne sort plus de chez elle que pour des achats de première nécessité.
Un peu de cannabis quand même, parce que c'est indispensable,
oui.
Non
oui. Eve Roger, vous êtes la chef du service société d'Europe 1, société sur laquelle vous avez toujours visiblement un temps d'avance. Aujourd'hui, vous nous proposez des solutions pour occuper nos ados durant ces longues journées, des solutions légales, j'espère.
Oui, c'est même des solutions que eux-mêmes ont trouvées et je vais vous les donner justement pour que les ados qui m'entendent fassent pareil. Alors, ce sujet m'est venu de mon expérience personnelle parce qu'après quelques jours de confinement, j'ai découvert que mon ado de 14 ans, alors elle s'appelle Bianca, faisait dans sa chambre bien d'autres choses que de travailler sur son ENT. Vous savez ce que c'est l'ENT ? Son
non.
Espace numérique de travail.
Dans, oh là.
Et pas seulement regarder des séries et discuter avec ses copines sur Snapchat ou Instagram. Non, ensemble, elles se font un programme de confinement et elles ont décidé, tenez-vous bien, de faire une cure de sébum et je laisse Bianca vous expliquer ce que c'est.
C'est-à-dire qu'on se lave pas les cheveux pendant un certain temps, une semaine ou plus. Il faut se brosser les cheveux tous les jours. Comme ça, on fait descendre la graisse sur nos pointes. Et en fait, c'est un masque naturel. Et après, au bout d'une semaine, quand on se lave les cheveux ou plus, eh ben, on a des cheveux soyeux, beaux, soyeux.
Tout le monde le fait ?
Personne n'osait le faire en temps normal, parce que c'est un peu dégoûtant d'avoir les cheveux gras. Mais là, vu qu'on sort pas, on a vraiment que ça à faire.
Voilà.
Mais
alors non. Ça, c'est la cure
c'est
de
fou,
sébum.
Je suis en train de faire une cure de sébum sans le savoir.
Alors, j'en revenais tellement pas quand elle m'a raconté ça, parce que j'avais rien vu venir, qu'on a appelé par téléphone mes belles-filles de 17 et 19 ans, qui, elles, sont confinées chez leur mère. Elles s'appellent Jeanne et Juliette. Et quelle ne fut pas ma surprise quand au téléphone, eh ben, elles ont répondu.
On se lave plus les cheveux, nous non plus. Parce que moi, je me les lavais tous les jours, et là, je fais une cure pour pouvoir les laver qu'un jour sur deux à la fin du confinement. Donc, je les lave qu'un jour sur trois, voire quatre. Bah, c'est difficile dans le sens où je déteste avoir les cheveux sales, mais en même temps, vu qu'ils sont tout le temps attachés, vu que je travaille à la maison, bah ça va.
Voilà. C'est, c'est vraiment incroyable. Oui. Et Anne Le Gall, à qui je racontais cette histoire de cure de sébum, me dit maintenant c'est la tendance no shampoo ou no poo qui vient des États-Unis. Mais j'ai quand même vérifié, la cure de sébum, c'est vraiment pas se laver les cheveux, mais pendant un mois minimum. Alors que le no poo, c'est un lavage light quand même une fois par semaine avec de l'adoucissant ou du shampoing écolo.
No poo, ça pourrait vouloir dire autre chose en anglais. Oui, <c'est... rire> ça veut dire ne pas aller aux toilettes. Hein. Je traduis pour.
Non, nos ados n'en sont pas là. Donc côté garçon, j'ai cherché l'équivalent de la cure de sébum, Mathieu.
Ouais,
et j'ai découvert que le grand must chez les ados, là, c'est de tenter la boule à zéro. c'est-à-dire se raser complètement la tête. Et c'est d'autant plus tendance, je crois, que les poils sont plus du tout les bienvenus en ces périodes de coronavirus, parce que vous savez, la barbe, les poils, le virus se niche dans la barbe, et dans la barbe qu'on tousse et qu'on éternue. Donc en gros, il vaut mieux se raser par ces temps qui courent. Donc, et puis grâce à ma fille, j'ai découvert un garçon sur Instagram qui s'appelle Henri, qui a décidé de se raser les sourcils au-dessus des yeux. Bref, tout ça pour vous dire que ce qui est amusant, c'est que les ados essaient des trucs pendant le confinement qu'ils n'osent pas faire en temps normal.
Et à part les cheveux, qu'est-ce qu'ils font comme expérience aussi, les ados ?
Alors ça marche surtout pour tout ce qui concerne l'apparence physique. Le maquillage pour les jeunes filles, alors soit elles décident de ne plus se maquiller du tout, reste naturel pour voir un peu comment ça fait, ou alors l'inverse, c'est-à-dire se maquiller par excès. Écoutez Bianca.
Des trucs que j'oserais jamais faire quand je vais en cours, donc par exemple je me mets du fard à paupières violet foncé, je me fais des gros traits d'eyeliner, du rouge à lèvres rouge pétant, ça nous entraîne, enfin on teste des bijoux, des nouveaux vernis, des nouveaux vêtements, du coup à la fin peut-être qu'on va glow up.
C'est quoi glow up ?
C'est une expression pour dire qu'on change en bien, on devient plus beau qu'on était.
Tu espères être plus belle qu'avant le confinement, en fait.
On s'est tous donné un défi, tout le monde sur Instagram, ils sont en mode, on se dit tous, c'est le moment où on peut faire du sport parce qu'on a le temps et qu'on veut jamais faire et qu'on reviendra à l'école, on aura tous maigri, on aura tous pris du muscle et du coup on aura glow up.
Oula, voilà, et c'est vrai up. Ça, elle fait du
c'est
sport.
C'est hallucinant, j'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, ils sont tous en train de se glow up pendant le confinement. Et l'objectif, c'est plus beau. Alors, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, parce que c'est vraiment les ravages des réseaux sociaux. Et heureusement, il paraît qu'il existe aussi le glow down. C'est-à-dire que.
C'est mon truc, ça.
Ce que vous décriviez, Mathieu, pour vous, on maigrit, on perd du muscle. Enfin, bref,
ça marche
dans les deux sens.
Et nos ados ne pensent pas qu'à améliorer leur apparence physique quand même, rassurez-moi.
Non, heureusement, on va retrouver mes deux belles filles, Jeanne et Juliette, et vous allez l'entendre, c'est presque un peu par hasard qu'elles se sont mises à tester autre chose, c'est-à-dire à faire de la peinture, écoutez.
J'en ai jamais fait, et là on a fait plein d'aquarelles, un jour sur deux à peu près.
Mais vous savez dessiner ?
Non. On prend des modèles, des paysages,
des poissons.
Ouais, des poissons,
des fleurs.
Et puis c'est une activité qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude et en fait quand j'ai du temps libre, moi je sors et là ça fait une petite pause dans le boulot en fait.
Voilà, c'est ça. Alors donc vous comprenez, elles testent des choses qu'elles font pas. Et comme j'avais un peu honte, parce que ma fille, elle faisait que se maquiller et faire une cure de sébum, je lui ai demandé si elle voulait pas profiter du confinement pour apprendre une nouvelle langue étrangère ou se refaire tous les films, ou se faire plutôt tous les films américains des années 50. Et à votre avis, elle a choisi quoi ?
La cure de sébum. Non, c'est pas ça.
Elle m'a dit, non, je préfère encore apprendre l'espagnol.
C'est sympa.
Rendez-vous dans un mois.
Oui, c'est ça.
Rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup, Ève Roger. Et qui sait, peut-être cette chronique vous permettra-t-elle de repartir avec un très beau cadeau, la couronne de chroniqueur du jour.
Non, mais je me demandais que, moi, je préférais avoir une esthéticienne pour les épilations.
Bon, je vais demander si l'échange est possible. Je reviens vers vous.
Europe 1.
Suis-je le meilleur intervieweur de ma génération ?
Non.
La question est flatteuse, je vous remercie de me la poser, mais c'était pas à moi d'y répondre. Bien que l'honnêteté m'oblige à dire qu'en effet, en matière d'interview, je touche ma bille, nombreux sont les invités de l'Équipée Sauvage qui pourraient en témoigner, à commencer dernièrement par Cali. Vous vous considérez comme un chanteur qui écrit ou comme un écrivain qui chante ?
Bon, je suis un chanteur qui écrit, et ouais, c'est ça, un chanteur qui écrit. Ça vous va, ça ?
Ça me va très bien, mais d'autant que quand on pose une question aussi con, faut pas s'entendre non plus à avoir une réponse incroyable.
Je vous remercie pour ma réponse.
Oui, ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas regretté d'être venus. Dans un instant, petit florilège de nos meilleures interviews. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
14e jour de confinement, 14e équipée sauvage en duplex de mon canapé. Plus ça va, plus elle nous paraît loin, l'époque où on se retrouvait en chair et en os dans le studio Coluche.
Oh, voilà.
C'est pourquoi chaque jour, désormais, vers 6h20 avec Eva, on ouvre l'album souvenir qu'on feuillette d'une main tremblante, une larme au coin de l'œil. C'était pour nous un tel plaisir de recevoir les artistes, même si parfois on leur faisait pas sentir, notamment Eva.
Pierre-François Martin Laval, putain, c'est long à dire.
Hein. Oh non !
Pierre-François Martin Laval, c'est long à dire, c'est vrai, qui, échaudé par cet accueil, avait ensuite sacrément défoncé nos journalistes.
Quand on s'appelle Axel de Tarlé, enfin déjà, à la base, on n'a pas de chance, quoi.
Ouais, Emmanuel Duteil, on va lui mettre un petit 3, et puis il va pas nous faire chier. Hein.
Et oui, la moyenne générale n'avait pas été très bonne ce jour-là. En revanche, on s'était bien marré. C'est pourquoi, avec Eva, on a décidé de réécouter notre interview de PEF, qui était avec nous le 14 octobre dernier. Un invité que je suis très ému de rencontrer, car il a marqué ma génération. Pour vous, les jeunes, c'est Antoine Polochon dans Les Profs. Pour moi, c'est l'irascible Monsieur Marcadet dans Les Robins des Bois.
C'est pour vous, monsieur Marcadet, il y a un monsieur au bout du fil.
Un monsieur ? Au bout du fil ? Oh, il doit être tout tournicoté.
Oh là là, monsieur Marcadet, vous savez quoi ? C'est mon rêve de rire à cette blague, mais j'y arrive pas.
Oh la pute !
C'est toute une époque, ça, quand même, les Robins des Bois.
Et juste après, je l'ai démantelé, Marina, avec une tronçonneuse.
Il y avait beaucoup de violence dans ces sketchs.
Beaucoup de violence.
Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça pourrait passer encore après MeToo et tout ça. Mais c'était quand même une belle époque. Bref, vous êtes avec nous cet après-midi. Beaucoup de chemin parcouru depuis les Robins des Bois, le succès en tant que réalisateur avec des films comme Prof 1, Prof 2. Vous êtes de retour avec un film très différent, là, pour le coup. Très, très différent. Fahim, l'histoire de ce jeune Bangladais qui émigre en France et qui est sans papier, qui va s'en sortir via les échecs. Un mot déjà de comment vous avez fait ce film. Est-ce que quand on est PEF et qu'on a plutôt l'image d'un réalisateur de comédie, on obtient facilement des crédits pour faire un film qui est un drame quand même, hein. Il y a des moments souriants évidemment dans le film, ouais. Des beaux moments, mais c'est quand même un drame, quoi.
On se dit tout ?
On se dit tout.
Ah oui, non, c'est...
Ça a été la croix et la bannière.
Oui. Ça a été la croix et la bannière. Vous imaginez bien, c'est comme quand on dit, regardez, tel acteur qui nous fait rire depuis des années, il n'arrive pas à jouer dans un drame. Voilà, c'est ça, on a une étiquette et c'est pareil pour le financement. Après, si Fahim marche, comme par hasard, tout va s'inverser.
Évidemment.
Mais
le premier drame, c'est compliqué à monter, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, les gens, mais bon,
mais voilà. Oui, parce qui reste à sa place. L'histoire est tellement incroyable. Vous avez Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, quand on parle des acteurs très connus. Ah,
peut-être que vous ne les aviez pas avant de signer le film. Est-ce que vous saviez dès le départ qu'ils feraient partie de l'aventure?
Oui, mais ça n'a rien à voir avec... Non, c'était compliqué, je pense, parce que je suis humoriste et on se dit, mais il n'y arrivera jamais à faire ce genre. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, ma foi.
Malgré la force du scénario, qui repose sur une histoire vraie qui est déjà extrêmement forte en elle-même. Donc, vous avez eu, on le dit, Gérard Depardieu, évidemment, ce film qui est énorme. Il est le prof d'échec que vient voir Fahim, le grand prof d'échec qui forme des petits champions. Et donc, pendant de nombreuses scènes du film, il joue lui-même aux échecs. En tout cas, il monte sur un tableau les placements, les cases. Et donc, quand on voit le film, on se dit, waouh, GG, il a dû bosser pendant 3 mois pour connaître les échecs parfaitement. Est-ce que c'est le cas, vraiment, Pierre?
Alors, je peux vous raconter la première fois que j'ai rencontré Gérard Depardieu. Bon, je parle pas de 15 ans plus tôt, mais quand je suis allé chez lui, vous savez, c'était comme un rêve, parce qu'il m'avait dit oui en décembre, juste avant Noël, et je le rencontre qu'en juin-juillet. Donc j'avais très peur qu'il passe par mon film, j'étais en panique, voilà. Et j'oublierai jamais ce moment, il m'accueille dans sa maison là, de parisienne en slip, il faisait très très chaud. Il m'a dit rentre vite. Et voilà, et j'arrive chez lui, et bon, j'ai passé 2 heures incroyables, il y avait des livres de partout, de la musique classique. Mais il me parlait pas du tout de Fahim, il me parlait de Hiroshima, du Japon, de la guerre d'Algérie, du colonialisme, de ces connards d'Américains. Et au bout de 2 heures, j'ai dit, il y a Gérard qui enfin me pose des questions sur le personnage qu'il va incarner, Xavier Parmentier, sur Fahim, sur le papa Noura. Et puis vient la question que je dois lui poser. J'ai dit, Gérard, il faudra que tu apprennes les échecs. Et là, j'ai vu la main d'Obélix qui allait me faire passer à travers le plafond. Non, mais il riait pas du tout. J'ai vraiment vu sa paluche. Ah ouais. Je me suis dit, mais il va me. Ah oui, c'est l'ogre, vous savez, le buffle, quoi, qui se réveille. Et donc, je me suis dit, bon, je lui en reparlerai sur le tournage. Ouais. J'ai été très péteux, très lâche.
Mais alors, comme quoi, ça prouve encore que c'est un immense acteur. Parce que quand on voit son maniement des pièces de l'échiquier, on a l'impression qu'il a vraiment intégré le rôle à l'américaine, acteur studio, qu'il a passé un mois à bosser.
C'est un génie. Après, 2 mois plus tard, je vous cache pas qu'on s'est un peu engueulé au début, hein, parce que je lui faisais enchaîner 14 coups, quoi. Ouais. Et puis, non, il s'y est mis, en fait. Il est génial. Mais c'est un grand travailleur. Hein. Beaucoup de gens préfèrent raconter des petites salades sur lui, comme quoi il apprend pas ses textes et tout. C'est un génie, ce type. Ouais.
Vous avez toujours eu ensuite envie de prendre comme ça des gens qui vous aient rêvé quand vous étiez jeune
Bien sûr, oui. Je rêve de Funès. Je ne sais pas pourquoi, l'agent ne me répond jamais. Mais j'ai eu beaucoup de chance.
Et qui sont les héritiers des Robins des Bois?
Les héritiers de Robin des Bois.
Ouais. Il y en a pas.
Eh bien, on les attend de pied ferme. En fait, j'aimerais bien qu'ils sévissent sur une chaîne et qu'ils foutent le bordel. Ouais, on attend tout ça.
Europe 1.
À suivre, il a de plus en plus de mal à faire réviser leur cours de maths à ses enfants. En plein exercice, butant sur une équation trop complexe, il est capable d'envoyer valser la trousse en s'exclamant.
On continue à nous apprendre des théorèmes de maths dont on ne se servira jamais, alors qu'apprendre à cuisiner, on s'en servira tous les jours. Tu crois que je me nourris avec Pythagore?
Et oui, pour certains, l'école à domicile n'est pas de tout repos. Heureusement, l'avantage d'être confiné avec Olivier Poul, c'est qu'on mange bien. Au fait, qu'est-ce qu'on mijote ce soir? Délice in extremis arrive juste après Harry Styles, Adore You sur Europe 1. Adore You, c'était Harry Styles sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement. Or, dans confinement, il y a confit. Et là où il y a confit, il y a Olivier Pouls, notre expert gastronomique qui chaque jour nous enseigne une recette facile et goûteuse pour épater nos proches. Olivier, avec qui nous avons vécu tellement de grands moments de radio. Comme la fois où Elise Moon avait voulu appeler une amie qui est belge pour prouver à Pouls qu'il avait tort.
Comme les Belges sont un peu compliqués, entre Wallons, Flamands, etc., il y a une autre bagarre sur les gaufres. Gaufres de Liège ou gaufres de Bruxelles.
Ah, qui ne s'appellent pas les gaufres, hein, je sais. Hein,
si, on appelle ça des gaufres de Liège, tout ça.
Vous êtes sûr?
Allez, avec l'accent, on dit même des gaufres de Liège.
Attends, voilà. Alors, on est dans un débat. La gaufre liégeoise s'appelle comment?
Alors, on appelle ça la gaufre de Liège.
Ah merde. J'aurais pas dû t'appeler alors.
Que de souvenirs. Bonjour Olivier Pouls.
Eh oui. Pouls 1, c'est Moon 0.
Eh oui.
Et le compteur, le score n'est pas prêt de bouger, vu qu'on est toujours aussi confiné, mon petit Pouls. Alors, qu'est-ce qu'on prépare ce soir de bon pour faire plaisir à nos proches?
Eh bien, on va attaquer la deuxième semaine de défi, puisque dès la semaine dernière, on avait demandé à nos amis auditeurs de me suggérer des produits qu'ils auraient chez eux dans le placard, dans le frigo ou dans leur jardin. Et puis moi, je m'engage à faire une petite recette avec. On peut même ouvrir le défi à la possibilité de, voilà, vous avez peut-être une recette ancienne de votre grand-mère, de votre tante, de votre papa que vous n'arrivez pas à refaire. Vous voudriez un petit truc. Eh bien, moi, je m'engage à vous donner à essayer en tout cas de vous donner la formule magique. C'est jamais garanti, mais d'être le plus précis possible. Alors le défi du jour, c'est elle mangera Jalil qui m'envoie cette liste de courses suivante: pois chiches, tomates et œufs.
Alors, pas facile, c'est pas mal déjà.
Mais, ouais, c'est pas mal. Mais je vous réserve même, vous allez voir, un petit cadeau bonus avec l'un des produits. Alors l'idée, c'est que les tomates, on est quand même au mois de mars, le dernier jour
de mars.
C'est
pas trop de saison, ouais.
C'est quand même pas de saison. Elles sont pas très bonnes. Donc hormis en faire un coulis, je vois pas grand chose d'autre. La meilleure manière de les utiliser quand elles sont pas très mûres, ben voilà, c'est de faire une préparation. Donc un coulis, on va couper nos tomates en petits morceaux, on va rajouter une petite pincée de sucre pour essayer d'enlever un peu l'acidité naturelle qu'elles ont encore en cette période. Mm-hmm. On va laisser compoter ça tranquillement avec quelques herbes si on en a, et puis on va mixer le tout assez finement de manière à obtenir un coulis de tomates. Alors les pois chiches, c'est un peu technique parce que les pois chiches, avant de les cuire, il faut d'abord les tremper dans l'eau. Donc pour aujourd'hui, ça va être un petit peu juste, ce sera plutôt pour demain, parce que l'idéal, c'est que ça trempe 10-12 heures dans l'eau de manière à ce que les pois chiches se regorgent un tout petit peu avant de les cuire.
Sauf si on a une boîte de pois chiches.
Alors, si on a une boîte de pois chiches, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà pré-cuits en général, en tout cas, ils ont déjà trempé. L'eau qui est contenue dans la boîte de pois chiches, vous n'allez pas la jeter parce que vais y revenir dans un instant.
Ah bon ?
Très important. Alors, nos pois chiches, on va les cuire dans notre coulis de tomates, justement. Alors, en fonction des boîtes que vous avez, pré-cuites, pas pré-cuites, ça va durer entre 10-15 minutes, voire une heure, si vos pois chiches sont vraiment crus. Il faut qu'ils soient bien mous. Et une fois que vos pois chiches auront cuit dans le jus de tomate, ils seront bien imprégnés de ce jus de tomate. À côté de ça, on va faire un œuf mollet. On rappelle, l'œuf mollet, c'est 6 minutes de cuisson, hein, pour qu'il soit coulant. Et donc, on va avoir ce mélange pois chiches au goût tomaté avec les petites herbes qu'on aura trouvées, une petite pointe d'épices.
Pas mal, pas mal.
Et puis un œuf coulant par-dessus. Mais surtout, le cadeau bonus, le voici. C'est que l'eau contenue dans votre boîte de pois chiches, qu'on appelle l'aquafaba, eh bien, ça va vous servir à faire une mousse au chocolat. Alors, je vous entends venir d'ici en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?
Mais oui, vous...
La particularité de cette eau de pois chiche, c'est qu'elle est capable de monter en neige comme des œufs, comme des blancs d'œufs. Donc vous allez la mettre dans un coup de poule avec un batteur électrique ou de l'huile de coude et vous allez monter votre eau de pois chiche, et je vous garantis que ça marche, en neige. Vous aurez la texture,
c'est incroyable,
hein, ouais, des œufs à la neige. Chocolat fondu, un peu de sucre, vous intégrez le tout, vous remettez ça au frigo et vous avez une mousse au chocolat sans œufs, sans lait, juste avec du chocolat et de l'eau de pois chiche. Et croyez-moi, c'est vraiment délicieux.
Alors là, c'est quand même la recette de feu et de fou.
Ah, c'est bluffant quand même, hein ?
Ah ouais.
Vous êtes à la fois Paul Bocuse et MacGyver. Ah ouais. Vous êtes le meilleur des deux mondes, Olivier Pouls.
Ah, merci,
vous êtes
du
le plus
compliment.
Grand. Merci Olivier, qu'on retrouve samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
C'était Délices in Extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette avec les fromages Hermitage, du goût, du partage.
Une 14e édition confinée de L'Équipée Sauvage s'achève. Cinéma, gastronomie, économie, géopolitique, innovation. Une fois de plus, nos journalistes auront abordé des thèmes extrêmement variés. En même temps, comme dirait Eva.
Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est l'éclectisme de L'Équipée Sauvage.
Et oui, ça, c'est l'éclectisme de L'Équipée Sauvage. Et même les meilleurs éclectismes, les éclectismes les plus éclectiques, ont une fin. Qui sera élu chroniqueur du jour ? C'est le moment décisif du Kitou 12.
Je vais quitter ce studio, vous ne pourrez plus la faire, l'émission. Vous serez bien embêté.
Vous êtes seule en studio, ma pauvre Eva, en plus. Oh, comment on ferait ? Ah bon, j'embaucherai une autre journaliste.
Alors là, espèce de mufle que vous êtes, vraiment.
En plus, là, je peux même pas vous prendre dans mes bras comme je faisais avant quand
je
faisais une grosse bachelée en studio.
Non, c'est pas vrai, vous faisiez pas non plus quand même. Hein, mais bon.
Si, je le faisais, je faisais des bisous, dis donc. Si, même, je sentais que vous frémissiez même sous mes bisous. Je le sentais, coquinette. C'est le moment du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour nous expliquer pourquoi la chronique était la meilleure. Ève Roger, pourquoi doit-on voter pour vous ce soir ?
Eh bien, moi, il me semble que je vous ai montré que les ados n'étaient pas seulement une espèce animale avachie sur un canapé devant des écrans. Et puis, accessoirement, ayez pitié de moi parce que maintenant, je déjeune et je dîne avec trois filles avec les cheveux sales.
Avec les cheveux dégueulasses, on a bien bien compris, hein, avec le glow up et le glow down. Hélène Cole, pourquoi voter pour vous et votre fantasque roi de la Thaïlande?
Eh bien, c'est simple, Mathieu, j'ai commis un crime de lèse-majesté avec cette
c'est
chronique.
Vrai.
Je risque
oui.
quand même 15 ans de prison ferme en Thaïlande.
Mais surtout,
donc, je pense avoir
vous ne pouvez plus jamais en Thaïlande.
Ouais. Ah bah peut-être. Enfin, s'ils nous écoutent, d'ailleurs, c'est évident qu'ils nous écoutent.
Bah oui. Hein.
C'est évident qu'ils sont que ça.
Donc voilà, donc j'ai mérité une prime de risque et ou au moins votre point, Mathieu.
Anissa Mbida, pourquoi devrions-nous voter pour vous cet après-midi?
Alors moi, c'est pas par pitié ou bien parce que mes enfants ont les cheveux sales, c'est tout simplement parce que j'ai répondu à la mission. Il fallait trouver des choses utiles qui nous rapprochent pendant ces périodes de confinement et je pense que la mission a été accomplie.
C'est tout simplement parce que je suis le meilleur.
Je suis
votez
meilleur,
pour
c'est
moi.
Ça.
C'est le message d'Anissé. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous?
Parce que les Corona Bonds peuvent sauver le continent européen, donc 400 millions d'habitants qui pourraient être sauvés grâce à cette chronique et 400 millions de gens d'auditeurs potentiels. Donc vous voyez, à tout égard, ma chronique mérite...
Enfin, c'est pas vous qui avez créé les Corona Bonds, vous les avez juste expliqués. Alors Axel, très bien. Pour ma part, franchement, toutes les chroniques étaient bien, les explications étaient intéressantes et compréhensibles par tous. Néanmoins, la seule à nous avoir parlé d'un roi suffisamment taré pour se balader en bikini, franchement, c'est quand même Hélène Cole. Mon point vous êtes attribué, ma chère Hélène. C'est vous qui l'emportez dans mon cœur. Mais
merci.
Eva Rock vote aussi. Eva, qui avez-vous choisi?
Eh ben, moi j'ai choisi Axel de Tarlé. Parce que je ne savais absolument pas ce que c'était que les Corona Bonds et j'ai tout compris.
Ah,
voilà.
Merci mon Eva, ça me va droit au cœur.
C'est très mignon, mais trêve d'effusion. Romain Causer, notre réalisateur, vote lui aussi. Romain, pour qui avez-vous choisi de voter?
Mathieu, aujourd'hui je vais donner mon point à l'excellente Eve Roger.
Ah,
Eve Roger! Alors donc là, on a pour l'instant une égalité totale.
Non, pas totalement, mais enfin bon, c'est pas grave. Allez-y.
Comment ça? Bah si, on a chacun un point.
Oui, et Anissé, il n'a pas de point, par exemple.
C'est vrai qu'Anissé, je l'entends, qui a beau être le meilleur, il n'a pour l'instant aucun point, Anissé. Donc, vous embêtez entièrement au vote du public.
Et le vote du public, eh bien, il a voté pour Eve Roger. Elle repart avec 3 points aujourd'hui, Eve.
Eve Roger.
Et les cheveux sales.
Quasiment invincible, Eve, dans notre émission. Eve Roger, vous remportez donc la 144e journée de l'équipe sauvage, la 14e confiné. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Eve Roger, Hélène Cole, Anissé Mbida, Axel de Tarlé et Olivier Pouls, Romain Causeur évidemment en régie, et également ceux qui sont dans l'ombre et qui continuent de bosser, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe est sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.